Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Jean-Mélène Betty.
Bonsoir à tous et à toutes au menu de ce 18h. Le chef du gouvernement ivoirien séjourne au Kenya dans le cadre du 21e sommet de l'Association pour le développement international. Plus de 150 jeunes responsables politiques du RHDP ont été formés aux notions de la responsabilité et de l'engagement politique dans le Bélier. Et puis hors de nos frontières, en Centrafrique, un mandat d'arrêt contre l'ex-président Bozizé pour de possibles crimes contre l'humanité. Voici pour l'essentiel. Ouvrons cette édition par un mot d'économie. Sommet de l'Association pour le développement international IDEA au Kenya, la Côte d'Ivoire appelle à un soutien continu de la Banque mondiale. Le Premier ministre Begrim Mombe, représentant le président de la République Alassane Ouattara, a pris la parole hier lundi lors de ce sommet qui vise à renforcer la mobilisation des ressources de l'IDEA pour les trois prochaines années et ce, dans un environnement de ressources limitées. Le Premier ministre Robert Begrim Mombe.
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la digitalisation, la modernisation de l'agriculture et des secteurs productifs, le développement du secteur privé et l'emploi des jeunes constituent les défis auxquels nous devons faire face. Par ailleurs, avec les menaces sécuritaires au Sahel, la Côte d'Ivoire fait face à un nombre de plus en plus croissant de réfugiés sociaux. Ils sont au plus de 50 000 à ce jour, entraînant des pressions sur les services sociaux de base et un engagement fort du gouvernement. Ainsi, mon pays sollicite un appui soutenu de la Banque mondiale en matière de prévention et de résilience. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui a porté le plaidoyer pour la mobilisation des ressources de l'IDA 20, est engagé à poursuivre ses efforts pour une reconstitution conséquente de l'IDA 21. C'est donc avec plaisir que mon pays abritera le 9 et 10 octobre 2024 le sommet économique africain en faveur de la mobilisation des financements majeurs pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources de l'IDA 21. Je voudrais lancer un appel aux donateurs, aux groupes de la Banque mondiale et à ses partenaires afin qu'ils mobilisent davantage des ressources IDA pour aider les gouvernements à faire face aux défis qui deviennent plus nombreux et plus complexes.
Vous écoutez à l'instant le Premier ministre Robert Begré Mombe. Après 4 années mouvementées, les perspectives pour l'Afrique subsaharienne s'améliorent progressivement. La croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et près de 2/3 des pays s'attendent à une croissance plus élevée. La reprise économique devrait se poursuivre au-delà de cette année. D'après les projections, la croissance devrait atteindre 4% en 2025. C'est ce qui ressort de la présentation des perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne faite ce lundi 29 avril 2024 au ministère des Finances et du Budget à la tour administrative au plateau par Luc Eiro, directeur des études régionales, département Afrique FMI, le Fonds monétaire international que nous écoutons.
Après 10 ans d'augmentation continue, la dette moyenne de l'Afrique subsaharienne s'est stabilisée à 60% du PIB l'année dernière. Et pour la première fois en 10 ans, on devrait observer une inflexion et une baisse de la dette en ratio de PIB à la fin de 2024. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle dépend de 2 facteurs. Le premier, c'est qu'on a une reprise économique. Donc quand on a une reprise économique, ça augmente le PIB. Et donc la dette qui est divisée par le PIB a tendance à diminuer. Mais le facteur principal, c'est que les pays d'Afrique subsaharienne ont commencé à mettre en place des politiques très sérieuses de rééquilibrage des finances publiques. On a un ajustement entre 2022 et 2025 pour les pays qui s'ajustent de 3% du PIB entre 2022 et 2025, c'est-à-dire quasiment 1% par an. C'est un ajustement ambitieux qui nous semble crédible. Dans le passé, les pays d'Afrique subsaharienne ont été capables de maintenir un ajustement de 1 point de PIB par an, mais c'est aussi un ajustement très ambitieux. D'autant plus que l'année 2024 est une année électorale dans 18 pays sur les 45 d'Afrique subsaharienne. Donc évidemment, les perspectives électorales parfois créent un peu des problèmes pour les politiques d'ajustement budgétaire. Donc on encourage les pays à continuer ces politiques d'ajustement parce qu'elles commencent à porter leurs fruits. La dette qui était en augmentation continue depuis une dizaine d'années se stabilise et commence à baisser. Il faut continuer.
Toujours sur le même sujet, le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est viable et soutenable et son risque de surendettement est modéré. C'est ce qu'a révélé la représentante résidente du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire, Aminata Touré. C'était au cours de la conférence de presse qui a suivi la présentation des perspectives économiques régionales qui s'est tenue ce lundi 29 avril 2024 au ministère des Finances et du Budget à Abidjan Plateau. Écoutons Aminata Ouattara.
Nos projections portent sur une croissance qui va à peu près de 6,4% cette année jusqu'à 7,5% en 2027. La croissance est principalement tirée par le secteur agricole, agriculture d'exportation, donc café, cacao, l'EVA, entre autres. Et l'agriculture vivrière aussi va en s'améliorant dans ses projections. Et ce qui tire aussi la croissance, c'est les trois phases de baleine. Le secteur de l'hydrocarbure, c'est trois phases qui vont rentrer en jeu. Et donc le pic de la croissance sera en 2027 à 7,5%. Et pour soutenir cette croissance, il est essentiel de diversifier l'économie, de la rendre encore beaucoup plus diverse qu'elle ne l'est, parce que quand on compare la Côte d'Ivoire à d'autres pays, la structure est diversifiée, mais il faut améliorer la résilience. C'est l'un des facteurs clés qu'on entend en ce moment, c'est surtout la résilience climatique vu l'importance de l'agriculture dans votre économie. Alors, la bonne nouvelle est que la dette de la Côte d'Ivoire est viable, elle est soutenable. À fin 2023, elle était à 57%, alors notre dernière analyse d'AVD montre que le risque de surendettement est modéré et avec la mission qui vient de finir au mois d'avril, ce risque de surendettement s'avère encore être maintenu, modéré et ils ont émis récemment un Eurobond de 2,6 milliards de dollars et une bonne partie des ressources levées sur ce Eurobond, c'était pour améliorer justement les ratios de liquidité et de solvabilité de la Côte d'Ivoire.
À l'instant, la représentante résidente du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire, Aminata Touré. Toujours sur le même sujet concernant le seuil d'endettement de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs critères et indicateurs qui permettent d'apprécier le niveau de surendettement d'un pays. Il y a des indicateurs de solvabilité et des indicateurs de liquidité. Et ensuite, il y a ce ratio formel qu'on dit endettement qui donne l'information de la dette sur le PIB avec les 60 à 65 % a expliqué ce lundi 29 avril 2024 le ministre des Finances et du Budget lors de la présentation des perspectives économiques régionales organisées par le Fonds monétaire international FMI. On écoute le ministre Adama Koulibaly.
Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes à 56-57%. Nous sommes bien en deçà de la norme de l'UEMOA qui est de 70%. C'est vrai que les deux tiers des pays africains sont en situation un peu difficile, soit surendettés, soit risque élevé, mais la Côte d'Ivoire se trouve dans la catégorie de risque modéré. Ça, je le dis très clairement, avec des indicateurs de solvabilité qui sont bons. Sur les indicateurs de liquidité, il y a un indicateur sur lequel notre attention a été attirée, nous-mêmes l'avions, et c'est pour cela que le programme économique et financier qui a été conclu récemment au Fonds monétaire international met l'accent sur la mobilisation des ressources internes. C'est ça qui va nous permettre justement de régler cet indicateur qui concerne le service de la dette rapporté aux recettes. C'est sur ce ratio-là que nous travaillons et le contenu du programme économique et financier vise à régler cela. C'est tout à fait possible puisque nous sommes en train de faire accroître notre pression fiscale. On a fait des efforts importants. La pression fiscale s'est accrue déjà de 1%. Nous sommes en train de faire en sorte d'augmenter la pression fiscale de 0,5%. Par an. Ça veut dire qu'entre maintenant et 2025, qui est la fin du programme avec le FMI, nous devons avoir 1% de croissance sur la pression fiscale. Donc cette année, on aura 0,5% et l'année prochaine, 0,5%, ce qui fera un cumul 1%.
Vous venez successivement d'écouter Luc Eiro, directeur des études régionales département Afrique FMI, le Fonds monétaire international. La représentante résidente de la même institution en Côte d'Ivoire, Aminata Touré, et le ministre du Budget et des Finances, Adama Koulibaly, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa. L'ENA, l'École nationale d'administration du Côte d'Ivoire, a organisé hier lundi 29 avril 2024 la journée de l'ENARC au sein de l'établissement Sisa au Deux-Plateaux dans la commune de Cocody. Au cours de cette journée, la ministre de la fonction publique et de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a donné une conférence magistrale. Retour sur cette activité avec vous, Mata Touré.
C'est sur le thème « Transformation du service public, enjeux et défis » que s'est articulée la conférence inaugurale marquant la journée de l'ENARC qui a lancé le « là » des festivités et marquant la prochaine sortie de la 58e promotion. C'est Pierre Narcisse, directeur général de l'ENA.
Nous avons tous vu émerger un nouveau vocable, celui du fonctionnaire nouveau. Les élèves ont donc décidé de lier le fonctionnaire nouveau à la transformation du service public. C'est pour cela que dans l'organisation de cette activité, vous leur parliez vous-même, porteuse de ce projet important, des enjeux et du défi de la transformation du service.
Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique de la modernisation de l'administration.
Avant de sortir de l'ENA, vous savez ce qui doit
changer.
Oui, fonctionnaire nouveau.
La culture du contrôle, de l'évaluation et de l'efficience.
Étienne Aboua-Kanga s'est prononcé au nom de cette 58e promotion de l'ENA.
Nos festivités de fin de formation ont été programmées avec la plus grande célérité, ce qui nous donne d'espérer que les processus de nos différentes affectations seront également traités avec la même attention et la même célérité.
Le point d'orgue de ces échanges a été sans nul doute l'annonce faite par la marraine du jour.
Et je suis heureuse de vous annoncer que M. le Premier ministre a confirmé sa participation et sa présence effective.
Vie des partis politiques, le Front populaire ivoirien FPI se prépare activement pour les échéances électorales de 2025. Le parti a organisé le samedi 27 avril 2024 dans la commune de Yopougon un séminaire de formation à l'intention de ses représentants locaux. Son président a au cours de cette session de formation appelé ses militants et sympathisants à se mettre en ordre de bataille pour remporter la présidentielle de 2025 et les élections locales à venir. Pascal Afinguissant.
Désormais, nous avons 44 régions politiques, chaque région constituant un FPI en miniature, avec toutes les ressources humaines et les structures politiques nécessaires pour une animation de façon décentralisée du parti. Il était important donc que tous ces nombreux cadres qui viennent d'être nommés pour animer le parti dans ces différentes régions puissent bénéficier de cette formation, de cette mise à niveau, de ce renforcement des capacités pour qu'ils comprennent la mission qui leur est dévolue sur le terrain, les objectifs qui sont assignés à leur région et les attentes de la direction du parti vis-à-vis du travail qu'ils ont à faire, de manière à ce qu'en 2025, le Front populaire ivoirien puisse gagner l'élection présidentielle et les élections locales. Donc c'est véritablement dans la dynamique de la préparation des élections de 2025 que nous avons mis en place cette nouvelle organisation du parti assise sur la décentralisation et que nous formons tous les animateurs de ces structures locales.
Vous écoutez à l'instant Pascal Afinguessan, président du FPI, Front Populaire Ivoirien. Un autre parti politique, un séminaire de formation politique a rassemblé ce dimanche 28 avril 2024 à Tumodi. Plus de 150 jeunes responsables politiques du RHDP, Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix dans la région du Bélier. L'événement a porté sur le thème « Jeunesse du RHDP engagée et responsable », une initiative de la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, par ailleurs membre du directoire du RHDP, en collaboration avec l'Institut de formation politique Amadougou Koulibaly, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Les détails avec Émile Yao.
Figure de proue de ce séminaire, le ministre Mamadou Touré a partagé à l'occasion son expérience politique avec les jeunes de son parti.
Ce que je lui ai dit autour donc, de ce thème engagement et responsabilité, c'est d'abord être engagé pour une cause, pour un idéal. Mais l'engagement rime aussi avec la responsabilité, dans le sens de bien faire le travail, aussi donc d'éviter tout acte qui peut contrarier la bonne marche du parti ou du pays. Et donc il ne peut pas avoir d'engagement sans responsabilité. Et c'est ce que vraiment j'ai partagé avec eux et je les ai écoutés. Nous voulons gagner les élections 2025. Il faut continuer à travailler, à convaincre les populations.
Pour Dr Raymond Dougoudou Kofi, membre du directoire du RHDP, l'objectif à atteindre est de donner les rudiments nécessaires à la jeunesse du parti afin qu'elle puisse prendre toute sa place dans les futures batailles.
Nous sommes tous dans la perspective de l'élection présidentielle 2025 et nous savons que l'avenir appartient donc à notre jeunesse du RHDP. Et il était bon pour nous de lui faire prendre conscience qu'elle a un rôle essentiel à jouer.
Quoi de plus normal donc que ces jeunes bénéficient de formations nécessaires? Magloire Ndéi, chef de bureau de la Fondation Friedrich Norman, formateur et partenaire de l'Institut Amadougou Coulibaly.
Cette formation porte globalement sur la jeunesse politique et la responsabilité. Il s'agit pour nous de développer deux modules, le leadership qu'il faut pour que le RHDP continue d'être un parti important en Côte d'Ivoire. Le deuxième module porte sur les outils de l'engagement politique.
À l'issue de la formation, les jeunes ont exprimé leur satisfaction et leur volonté de s'engager politiquement pour contribuer au développement de leur communauté. Émile Yao, depuis Toumoudi, Radio de la Paix.
Parlons littérature. L'AEC, Association des écrivains de Côte d'Ivoire, a procédé ce samedi 27 avril 2024 à sa traditionnelle rentrée littéraire. Cet événement, couplé à la célébration de la Journée mondiale du livre, s'est déroulé à Boaké. Une grande première pour la fête hier des écrivains ivoiriens et qui confirme le choix du thème, le livre à la rencontre des populations. Docteur Hélène Lobé, présidente de l'AEC, est au téléphone avec Didier Blé.
Habituellement, cela se fait à Abidjan depuis 1986 que l'association existe. Cette année, nous avons décidé de délocaliser, d'aller à la rencontre des populations. Nous sommes allés à Boaké comme première étape parce qu'on compte sillonner la Côte d'Ivoire. Il y a eu des rencontres, des communications, dédicaces.
Cette rentrée littéraire, vous la placez sous quel signe?
On peut dire de l'espoir d'une meilleure connexion entre le lectorat et les lecteurs. Nous avons eu des expositions ventes, des ateliers d'écriture, des émissions radio. Cela nous a permis de parler des enjeux de la lecture et du bienfait de la lecture.
Est-ce qu'on peut avoir une idée justement de vos grands chantiers?
Dans quelques mois, nous aurons les assises de l'AEC qui vont nous permettre d'identifier les mots qui minent notre corporation et de nous donner des possibilités de solutions. Ensuite, le gala des écrivains, pendant lequel on va récompenser à partir de certains critères les écrivains. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des formations pour les futurs écrivains.
À l'instant, Dr Hélène Lobé, présidente de l'AEC. Hors de nos frontières, en Centrafrique, un tribunal spécial parrainé par l'ONU a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé dans une enquête sur sa responsabilité dans de possibles crimes contre l'humanité commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Bozizé, 77 ans, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles, qui est aujourd'hui à la tête de la principale rébellion centrafricaine. Il est exilé en Guinée-Bissau depuis mars 2023. Et puis au Kenya, le président kenyan William Ruto a annoncé ce mardi avoir mobilisé l'armée et ordonné l'évacuation des personnes vivant dans les zones à risque d'inondation dans le pays, frappé par des pluies diluviennes qui ont fait au moins 171 morts depuis mars. Dans la nuit de dimanche à lundi, un barrage naturel situé à quelques kilomètres de la CD sous l'effet de l'accumulation des pluies déversant un puissant torrent d'eau boueuse qui a balayé plusieurs villages en contrebas. C'est sur cette information que nous refermons les portes de ce journal, mais avant le rappel des titres. Le chef du gouvernement ivoirien séjourne au Kenya dans le cadre du 21e sommet de l'Association pour le développement international. Plus de 150 jeunes responsables politiques du RHDP ont été formés aux notions de la responsabilité et de l'engagement politique dans le Bélier. Et plus hors de nos frontières, en Centrafrique, un mandat d'arrêt contre l'ex-président Bozizé pour des possibles crimes contre l'humanité. Merci de nous avoir suivis. L'information sera de retour demain à 7h, mais avant, le magazine Mon droit au quotidien avec Aussi Poutin.